On va retrouver maintenant Isaac Franco qui va nous parler de quoi ? Bien, forcément, de la rencontre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump, respectivement Premier ministre de l'État d'Israël et président des États-Unis, si vous le voulez. Juste avant cette rencontre, eh bien, Blaise van der Linden s'est entretenu avec Isaac Franco pour décrypter les enjeux de cette rencontre. On les écoute.
Isaac Franco, bonjour.
Bonjour Blaise.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a atterri à Washington cette nuit. Il doit rencontrer le président américain Donald Trump en fin d'après-midi. Alors, les deux hommes devraient parler de trois sujets. Hein. L'Iran qui devrait être le principal sujet de discussion, mais ils devraient aussi parler du cadre trilatéral au Liban et les efforts visant à élargir les accords d'Abraham. Isaac Franco, qu'attendre de cette visite du Premier ministre israélien à Washington ?
Alors, c'est cette huitième visite du Premier ministre israélien avec le président américain depuis sa réélection en novembre 2024. C'est la première aussi depuis le déclenchement de la guerre du 28 février dernier contre l'Iran. Alors, à chaque rencontre entre le président américain et le Premier ministre israélien, on dit de cette rencontre qu'elle est critique, qu'elle est capitale, qu'elle est la plus importante de toutes. Mais celle-là est particulière parce qu'il y a aussi deux élections, celle des midterms américains qui se tiendront le 3 novembre prochain et les élections législatives israéliennes qui se tiendront, elles, le 27 octobre prochain, c'est-à-dire une petite semaine avant celle des midterms américains. Et il est évident que ce calendrier va influer sur les discussions entre les deux leaders. Alors, on va discuter effectivement de l'Iran, c'est probablement le plat de résistance, mais on va également discuter de la vente des F-35 à la Turquie, également discuter de cet accord nucléaire entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Discuter aussi de cet accord trilatéral ou de l'ébauche d'un accord de normalisation des relations entre le Liban et Israël, des négociations qui reprendront à Rome au début du mois prochain. Également la table de discussion, il y aura les demandes plus ou moins insistantes de l'administration américaine pour le retrait des troupes israéliennes qui sont pour l'instant au sud du Liban, en Syrie et à Gaza. Donc, beaucoup de choses à discuter entre les deux leaders.
Alors, on va évidemment parler de l'Iran, hein, comme on l'a dit. La délégation israélienne entend convaincre Washington que les dirigeants iraniens ne négocient pas de bonne foi et poursuivent leurs activités nucléaires malgré les discussions sur un cessez-le-feu et une reprise du dialogue avec les États-Unis. Donald Trump va-t-il écouter Benjamin Netanyahu sur ce sujet ou, comme vous l'avez dit, son agenda politique est trop délicat pour cela ?
Alors, l'agenda politique est délicat et il est probable que l'influence du Premier ministre israélien sur une décision américaine est moins grande aujourd'hui qu'elle l'était le 11 février lors de leur précédente rencontre, c'est-à-dire 17 jours avant le lancement de la guerre du 28 février. C'est sûr, ça va peser pour le président américain. Il y a cette espèce d'hésitation, cette valse d'hésitation entre frapper plus durement encore l'Iran ou bien conclure un accord qui serait défavorable aux intérêts américains comme israéliens. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour le président américain. C'est soit y aller à fond, soit alors consentir à des conditions qui seraient semblables à celles qui ont été visées par le MOU, le Memorandum of Understanding, qui était un véritable cadeau pour la République islamique, qui pour des raisons obscures a refusé d'en tirer tous les dividendes possibles. Il y a une troisième option, c'est la poursuite de cette non-guerre, de cette situation de non-guerre, non-paix jusqu'aux élections du mid-term, jusqu'au 3 novembre, c'est-à-dire des menaces du président américain si les négociations échouent, eh bien de reprendre les frappes. Elles reprendront peut-être et puis elles s'arrêteront à nouveau pour donner une nouvelle chance aux négociations. C'est très difficile à prédire. Vous savez, après que la guerre du 28 février s'est arrêtée le 8 avril avec ce cessez-le-feu unilatéral décrété par le président américain, on avait accusé le premier ministre israélien d'avoir entraîné les États-Unis dans une guerre qui n'a pas atteint tous ses objectifs. Donc ce sera encore plus difficile, en tout cas difficilement imaginable, après cette rencontre, après la rencontre d'aujourd'hui, d'imaginer que le président américain relancera les frappes juste après la visite du premier ministre israélien. Ce cri nourrira les soupçons qu'en réalité le président américain est sous influence israélienne. C'est extrêmement difficile à prévoir. Quant à la preuve ou aux preuves que le Premier ministre israélien entend montrer aux Américains que les Iraniens trichent, ne veulent en réalité pas de négociations ou qu'ils se servent des négociations pour gagner du temps, se réarmer, se réorganiser, relancer leur programme nucléaire, leur programme de balistique, leur programme de drones, renforcer leur proxy, c'est évident que l'administration américaine n'a pas besoin d'une preuve israélienne que les Iraniens n'ont pas l'intention de voir ces négociations aboutir à quelque chose de concret. Il faudrait des preuves extrêmement fortes, extrêmement convaincantes, qui montrent que dans Pishaqshe Mountain, c'est-à-dire la montagne de la pioche, il y a effectivement, juste avant la signature du MOU, des transferts de centrifugeuses dans la montagne qui se trouve à 1,5 km au sud de Natanz, qui a été détruite pendant la guerre de juin 2025. Il faudrait des preuves très convaincantes pour entraîner le président américain à relancer des frappes qui doivent être impérativement plus décisives pour contraindre le régime iranien à des concessions significatives.
Alors, autre sujet majeur, hein, qui va être abordé, on l'a dit, c'est cette fameuse négociation trilatérale sous l'égide des Américains entre Israël et le Liban qui reprendront à Rome à partir du 4 août prochain. Est-ce que vous y croyez? Vous êtes confiant par rapport à ces discussions, Isaac Franco?
Il faut mettre l'armée libanaise et l'État libanais à l'épreuve des faits. Les Israéliens ont quitté deux zones qu'ils occupaient pour permettre à l'armée libanaise de faire la preuve de sa capacité à les gérer et à empêcher le Hezbollah d'y revenir. On va voir. C'est la question, c'est l'éléphant dans la pièce. Bien évidemment, si l'État libanais est capable de contraindre le Hezbollah à se désarmer et à n'être plus qu'un parti politique, oui, il y a une normalisation possible, mais il faut en faire la preuve. Et aussi longtemps que ce problème du Hezbollah pèsera sur les négociations, on pourra prendre toutes les décisions, signer tous les documents possibles et imaginables, mais aussi longtemps que l'État libanais n'a pas cette capacité de contraindre le Hezbollah à se désarmer, c'est évident que les Israéliens ne feront, eux, aucune concession. Ils resteront présents au sud du Liban, et d'ailleurs, c'est ce qu'un haut responsable américain a déclaré hier ou avant-hier. Il est bien entendu entre Israéliens et Américains que les Israéliens n'entendent pas quitter le Liban Sud aussi longtemps que le Hezbollah n'est pas désarmé. Donc tout dépend de la capacité de l'État libanais à restaurer, si je puis dire, sa légitimité, sa souveraineté sur l'ensemble du territoire libanais.
Isaac Franco, vous êtes analyste géopolitique et puis on vous retrouve à partir de la rentrée, hein, tous les lundis avec Richard Loeb pour l'émission Cherchez l'erreur. Merci, passez une bonne journée, à bientôt.
Merci, au revoir Blaise.